Journal de la mi-journée.
Bonjour. La population suisse entretient des relations ambivalentes avec l'Union européenne. C'est ce que montre notre grand sondage paru ce matin. Le soutien aux accords bilatéraux varie en fonction de facteurs sociaux, notamment le degré de formation. Explication dans un instant. Dans l'actualité de ce vendredi, la reprise des pourparlers pour un cessez-le-feu à Gaza. Pour la première fois depuis le mois d'août, Israël envoie des négociateurs. Le Japon se joint ce matin à plusieurs pays occidentaux et s'inquiète de l'envoi de soldats nord-coréens en Russie. La guerre va-t-elle prendre un nouveau tournant? On pose la question à une spécialiste de la Russie. Dans ce journal aussi, l'élection présidentielle américaine avec une affluence record en Géorgie pour le vote anticipé et le nouveau visage du centre historique de Bulle. Dans notre rendez-vous du vendredi, on se demande comment essayer de vieillir le mieux possible. Vous entendrez un reportage avec des seniors qui font des activités ensemble et on reçoit ensuite une sociologue elle-même fraîchement retraitée. Météo assez ensoleillé, plus gris dans la région du Simplon, jusqu'à 16 degrés. On est ensemble pendant une demi-heure. Bienvenue. Notre grand sondage le révèle, la population suisse entretient des relations ambivalentes avec l'Union européenne. Une majorité se dit méfiante envers l'Union européenne. Mais dans le même temps, elle souligne son attachement aux accords bilatéraux à plus de 80%. Bonjour Mathieu Henderson.
Bonjour Pauline.
Ce fort soutien est tout de même plus nuancé au sein de certaines catégories de la population.
Oui, la perception de l'Union européenne varie en fonction de facteurs sociaux, notamment le degré de formation. Tenez, les universitaires sont plus nombreux à voir l'UE d'un bon œil. Ils et elles sont deux tiers à considérer les bilatérales comme bénéfiques, alors que ce constat est partagé par seulement 49% des personnes avec un degré de formation moyen et par 42% de celles avec un niveau bas. Une différence logique, selon Martina Mousson de GFS Berne, l'institut qui a mené le sondage.
Je pense que ça a à voir avec la mobilité des gens avec une formation élevée qui est plus facile, disons, dans l'Europe, d'aller travailler, étudier. Et là aussi, il y a eu cette discussion autour de Horizon qui a été finie il y a 3 ans. Et ça a bien sûr émotionnalisé ces gens.
On l'entend, Martina Mousson fait référence au programme de recherche européen Horizon. La Suisse avait été exclue de ce programme après l'arrêt des négociations de l'accord cadre en 2021. Cela avait suscité de grandes inquiétudes au sein des universités. Au niveau régional, on observe aussi des différences. Le Tessin se dit beaucoup plus critique envers les bilatérales que les romans et les alémaniques. Les auteurs expliquent que le canton italophone a toujours été plus eurosceptique, lui qui est particulièrement concerné par la migration via le sud des Alpes.
Mathieu Henderson en direct de Berne. Et on l'a entendu, ce sentiment ambivalent de la population suisse à l'égard de l'Union européenne. Gilbert Casassus est professeur émérite en études européennes à l'Université de Fribourg. Selon lui, les partis politiques ne doivent pas prendre ce sondage pour argent comptant.
Il est vrai que quand 70% de la population dit oui, on voudrait avoir un accord, ça peut servir plutôt au camp pro-européen. Mais il faut quand même faire attention. Rappelons-nous de 92, rappelons-nous des sondages. On disait, mais de toute façon, ça passera comme une lettre à la poste. On a bien vu que la poste était fermée le soir du 6 décembre. Donc, vous parliez de l'initiative Boussole. Peut-être moins en Suisse romande, mais en Suisse alémanique, elle a un certain poids, elle a une certaine influence. Il y a des gens connus, des gens qui sont réputés par la population suisse, comme Bernard Troussy, comme Aschbacher, mais aussi des milliardaires. Donc on voit très bien clairement qu'il y a un mouvement anti-européen qui se mettra en place pas par pas, et je considère que si les partis pro-européens disent c'est gagné, ils font une erreur.
Gilbert Casassus était l'invité de Yann Amedro dans la matinale sur la première. Il évoquait le 6 décembre 1992, le jour où la Suisse a dit non à l'espace économique européen. Le sondage a été réalisé par l'Institut GFS Berne pour le compte de la SSR entre le 16 et le 30 septembre auprès de 20 000 personnes. Tous les résultats sont à voir sur notre site rtsinfo.ch. On vient de l'apprendre, le tribunal fédéral estime que les autorités grisonnes ont refusé à tort l'autorisation réclamée par des militants d'utiliser la route cantonale entre Küblis et Klosters pour une marche en faveur du climat. Une marche qui devait avoir lieu durant le Forum économique mondial, le WEF, en 2023. Selon le TF, la manifestation aurait pu être autorisée sur certains tronçons au moins. Dans son arrêt publié ce matin, il estime que le déplacement de tout l'itinéraire en dehors de la route cantonale porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'opinion et de réunion. Dans l'actualité internationale, la reprise des pourparlers pour un cessez-le-feu à Gaza. Israël a annoncé hier l'envoi d'une délégation au Qatar pour négocier un accord impliquant une libération des otages. Batseba Ouroui, ça faisait depuis cet été que l'État hébreu n'avait pas participé à des négociations.
Ça faisait depuis août qu'Israël n'avait pas repris place à la table des négociations. Ces nouvelles discussions interviennent après la mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar, la semaine passée, un contexte où le gouvernement israélien est soumis à des pressions internes et internationales pour mettre fin à la guerre à Gaza et au Liban. L'État hébreu a annoncé hier envoyer des représentants au Qatar. Objectif, participer aux négociations sur un potentiel cessez-le-feu à Gaza. Le responsable du renseignement extérieur israélien, David Barnea, y est. Il rencontrera dimanche le chef de la CIA et le premier ministre qatari. Il discutera des différentes options afin de reprendre les négociations sur la libération des otages. Ce n'est pas une première pour David Barnea. Il s'est déjà entretenu avec des hauts responsables égyptiens dans le cadre des discussions pour un retour des négociations et pour un cessez-le-feu. De son côté, le Hamas se dit prêt à un arrêt des hostilités, mais exige d'Israël un cessez-le-feu et un retrait de la bande de Gaza.
Le sujet de Batseba Ouroui. Parlons maintenant de la guerre que la Russie mène en Ukraine. Cette guerre pourrait-elle prendre un nouveau tournant? Kiev a affirmé hier soir que des soldats nord-coréens ont été déployés dans la région de Koursk, près de sa frontière. Et ce matin, le Japon s'inquiète d'une escalade du conflit. Carole Grimaud, spécialiste en géopolitique de la Russie à l'Université de Montpellier, explique que ce déploiement de soldats est une première étape dans les accords signés entre la Russie et la Corée du Nord.
Si l'on se rappelle le mois de juin et ces accords de coopération, ces traités qui ont été signés entre la Russie et la Corée du Nord, eh bien, on pourrait voir là un premier résultat. Ça pourrait effectivement être une étape, une façon de montrer donc que cette coopération fonctionne. Et on voit l'illustration donc de l'envoi de ces troupes nord-coréennes en Russie, pour l'instant dans des camps d'entraînement. Hein. Ils seraient dans l'est de la Russie pour s'entraîner. Donc ce seraient des forces spéciales, selon les renseignements ukrainiens et sud-coréens, des forces spéciales nord-coréennes. On n'est pas trop sûr de l'effectif qui a été envoyé, ni le but de ce renfort. Évidemment, du côté russe, on se défend d'avoir demandé donc à la Corée du Nord une aide pour le front, mais on se doute bien que des forces spéciales ne sont peut-être pas en Russie même ou à l'est de la Russie pour y rester. Voilà.
Donc les États-Unis, l'OTAN, la Corée du Sud et ce matin le Japon disent craindre une escalade majeure dans le conflit. Est-ce qu'on peut le craindre?
C'est une action significative de la part de la Russie de demander donc un renfort militaire de la Corée du Nord qui n'a jamais déployé dans l'histoire son armée dans un pays étranger. C'est assez choquant parce que l'on voit que la Russie est tout à fait capable donc de demander de l'aide à un allié, que cet allié y répond. C'est inquiétant également si l'on considère qu'est-ce qui est en jeu dans cet échange, c'est-à-dire qu'est-ce que va donner la Russie à la Corée du Nord pour l'envoi de ses hommes. Est-ce que ce sera des technologies militaires, des armes qui inquiètent bien sûr la Corée du Sud, le Japon aussi. Le contexte est inquiétant. Si vous regardez également la situation militaire en Ukraine, les avancées russes continuent à se confirmer. On voit bien petit à petit ces villes, ces villages qui tombent aux mains des Russes pour s'approcher significativement de Pokrovsk, qui est un des buts de l'armée russe. Et est-ce que là, les soldats coréens sont venus pour prêter main forte donc à cette armée russe pour conquérir cette ville de Pokrovsk qui est stratégique pour l'armée ukrainienne? Donc effectivement, tout cela est extrêmement inquiétant dans un contexte d'élection américaine où l'on ne sait de quel président sera la Maison-Blanche et quelles vont être exactement la direction politique étrangère des États-Unis et la demande insistante des Ukrainiens pour utiliser des armes de longue portée directement sur le sol russe.
Carole Grimaud, vous disiez tout à l'heure qu'on voit ces soldats nord-coréens s'entraîner à l'est de la Russie. Kiev dit avoir vu des soldats à Koursk, donc à l'ouest de la Russie, près de la frontière ukrainienne. Est-ce qu'on peut imaginer que ces soldats nord-coréens franchissent la frontière ?
C'est une bonne question. Tout dépendra de l'accord qui aurait été passé avec, entre le Kremlin et la Corée du Nord, c'est-à-dire quelle est la fonction, quelles seront les actions de ces soldats coréens en Russie. Sont-ils là pour prêter main forte, pour repousser les soldats ukrainiens qui sont toujours dans la région de Koursk, ce qui, je dirais, justifierait, entre guillemets, pour le Kremlin d'avoir demandé donc à une force étrangère de défendre le pays même, c'est-à-dire la Russie, à repousser ses forces ukrainiennes, ou bien franchir la frontière et aller combattre dans le Donbass, sur la ligne de front. Là, on est dans deux cas de figure très différents.
Carole Grimaud, interrogée ce matin. Carole Grimaud qui évoquait les élections américaines, on l'a entendu. Le jour de l'élection présidentielle, c'est le 5 novembre, mais des dizaines de millions de personnes ont déjà voté. En Géorgie, affluence record pour le vote anticipé. La mobilisation de l'électorat noir dans cet État a changé le cours de la politique nationale ces dernières années et beaucoup dépend d'une femme surnommée la déesse de la démocratie. Jordan Davis nous brosse le portrait d'Helen Butler.
Miss Vote. C'est ainsi qu'on présente Helen Butler devant cette congrégation noire d'Atlanta. Mais à vrai dire, elle n'a pas besoin d'introduction. Depuis 20 ans, Helen Butler dirige The Georgia Foundation for the People's Agenda, une association qui mobilisera quelques 2000 volontaires pour frapper aux portes ou pour emmener des citoyens qui en ont besoin jusqu'au bureau de vote. Il suffit d'appeler la permanence téléphonique.
Pour moi, tout ce qui touche à nos libertés est en jeu dans cette élection. Il faut s'assurer qu'on élise les candidats qui vont protéger nos libertés et qui vont représenter nos intérêts.
Son travail est officiellement non-partisan, mais ses efforts pour mobiliser l'électorat noir en 2020 ont mis non seulement la Maison-Blanche, mais le Sénat américain en main démocrate. Depuis, les républicains en Géorgie ont multiplié les mesures restrictives, fermant même des bureaux de vote, souvent là où se concentre la population afro-américaine.
Je dis aux gens que nous allons vous aider à passer outre ces entraves et que vous allez bien pouvoir voter.
Dans les États du Sud, les Noirs ont obtenu le droit du vote il y a tout juste 60 ans. Helen Butler était adolescente à l'époque et elle refuse de retourner en arrière. Pour la déesse de la démocratie, la seule manière d'avancer, c'est d'aller voter.
C'était le reportage de Jordan Davis, notre correspondant aux États-Unis. L'Allemagne est devenue une plaque tournante du trafic de bateaux pneumatiques utilisés par les personnes migrantes pour traverser clandestinement la Manche. C'est ce que montre une enquête menée pendant 5 mois par la BBC. Selon le média public britannique, les bateaux sont cachés dans des entrepôts près de la ville d'Essonne, dans l'ouest de l'Allemagne, à quelques heures de route de Calais, en France. Les explications de notre correspondante à Londres, Catherine Illich.
Pour mener cette enquête, un journaliste de la BBC s'est fait passer pour un migrant syrien désireux de traverser la Manche afin de rejoindre le Royaume-Uni avec famille et amis. Il parvient à entrer en contact avec 2 contrebandiers basés dans la ville d'Essen, pas très loin de la frontière avec les Pays-Bas. Il lui propose pour 14 000 francs l'acheminement vers la France d'un canot pneumatique avec gilet de sauvetage. Ils affirment avoir une dizaine d'entrepôts autour d'Essen où sont stockés les bateaux importés de Turquie. Essen, ville de taille moyenne où résident beaucoup de migrants, est suffisamment proche de Calais pour s'y rendre assez rapidement par l'autoroute. L'Agence nationale britannique contre le crime organisé confirme que l'Allemagne est devenue un point de transit important. Des descentes de police ont d'ailleurs eu lieu, mais le pouvoir des forces de l'ordre est limité car faciliter le passage de clandestins n'est pas considéré comme illégal en Allemagne si c'est vers un pays hors de l'UE, ce qui est le cas du Royaume-Uni depuis le Brexit. Catherine Illich, RTS Info, Londres.
Retour en Suisse, dans le canton de Fribourg, la ville de Bulle a présenté son nouveau visage. Le projet de réaménagement de son cœur historique a été dévoilé ce matin. La deuxième ville du canton, avec ses désormais presque 30 000 habitants, est connue pour son dynamisme économique et démographique. Bonjour Muriel Balaman.
Bonjour Pauline.
De quoi donner des défis aux responsables de l'aménagement ?
Oui, Bulle, ce n'était que 12 000 habitants en 2002. 22 ans plus tard, la population a plus que doublé, notamment à la faveur d'une fusion. Et une étude parle même de la possibilité d'une ville à 38 000 habitants en 2040. Ces autorités doivent donc faire face à un double enjeu, moderniser son centre-ville, là où il y a seulement quelques décennies un marché aux bestiaux, tout en intégrant au mieux une population galopante. Ces 12 travaux d'Hercule passent par davantage d'espaces piétons qui changent les usages du centre-ville, davantage de zones vertes également, la mise en place de brumisateurs et de points d'eau pour lutter contre les îlots de chaleur, sans oublier une augmentation des terrasses pour les cafés et les restaurants, tous des points plébiscités par un échantillon de la population. Les travaux débuteront en 2027, ils n'ont pour l'heure pas de date de fin. Bulle veut les faire avancer en fonction des disponibilités financières. Ils devraient coûter une dizaine de millions de francs.
Et Muriel, les automobilistes vont devoir changer leurs habitudes.
Oui, ils seront dissuadés de passer par la Grand Rue, la rue principale de la ville, pour aller d'un bout à l'autre de Bulle. Les automobilistes seront invités à la contourner. L'idée des autorités est de casser le trafic de transit au centre-ville. 200 places de parc vont également disparaître, mais selon les autorités, elles resteront suffisantes, les places actuelles étant sous-utilisées. Dans un canton d'automobilistes, la réussite du projet va en partie dépendre de la réaction des usagers de la route, un point certainement à surveiller pour le syndic PLR de la ville de Bulle.
Muriel Balaman en direct de Bulle. Et dans l'actualité économique, l'aciériste lucernois Suisse-Til dément catégoriquement ce matin les informations parues dans la presse alémanique selon lesquelles une procédure de faillite serait imminente. Frédéric Mamaïs, Suisse-Til est sous pression depuis le début de la semaine.
Oui, depuis lundi matin, son action a chuté de plus de 8% en bourse. Suisse-Til est avec Stahl Gerlafingen l'un des deux derniers rescapés de son secteur dans le pays. Le groupe affirme ce matin maintenir des contacts réguliers et constructifs avec tous ses créanciers, mais reconnaît ne pas attendre d'amélioration de sa situation avant l'année prochaine.
Et Frédéric, quel est le problème de l'aciériste ?
Le problème, c'est l'affaiblissement de la demande en provenance de l'industrie automobile européenne qui traverse une phase de net ralentissement. Ce printemps, une enquête de la RTS dévoilait les grandes difficultés des deux aciéries suisses. Le Soleroy Stahl Gerlafingen annonçait la fermeture de l'une de ses deux lignes de production, mettant en péril une centaine d'emplois. Le vice-président de la fêtière suisse même rappelait alors une spécialité helvétique. La Suisse, contrairement aux pays étrangers, n'avait pas massivement soutenu ses aciéries lorsque les prix de l'énergie avaient explosé. Près de 500 ouvriers de Stahl Gerlafingen ont manifesté sur la place fédérale à Berne cette semaine. Ils protestaient contre les projets de démantèlement en cours et demandaient à renoncer au licenciement prévu.
Merci Frédéric Mamaïs. Et du sport maintenant avec le Valais qui va vrombir aujourd'hui et demain au rythme du rallye international. Deux jours de course qui débutent aujourd'hui avec des parcours à Anzer, Nax et Eremance. Parmi les concurrents, un nom qui sort du lot, celui de Jos Verstappen, le papa de Max, triple champion du monde de Formule 1. Une inscription qui réjouit Lionel Muller, vice-président de l'organisation.
C'est clair que c'est hyper intéressant, c'est hyper valorisant aussi pour le rallye international du Valais, surtout qu'on n'a pas fait la démarche d'aller chercher un pilote de renom, d'aller chercher Jos Verstappen. C'est vraiment lui, respectivement son copilote, qui sont venus vers nous et qui ont dit voilà, son copilote a connu le rallye international du Valais en ayant roulé par le passé, et il a dit à Jos, ben voilà, moi cette année je veux mettre ça à mon programme, et Jos, est-ce que tu es d'accord de venir? Les discussions ont débuté comme ça, on n'a pas invité Jos Verstappen, donc il est vraiment présent en concurrent lambda, et ça c'est vraiment un honneur pour nous, effectivement.
Lionel Muller répondait à Laurent Bastardo. À noter que le rallye se terminera demain avec des spécialistes dans les Hauts de Martigny. Et puis encore un peu de sport avec cette nouvelle. Marco Odermatt vient de remporter le skieur d'or, un prix qui récompense le meilleur skieur de l'année, hommes et femmes confondus. Le Nidwaldien de 27 ans avait déjà gagné ce prix en 2022. Il succède à l'américaine Michaela Schifrin.
Le 12-30, Pauline Rabat.
Et en cette fin d'émission, on va parler d'un sujet qui concerne tout le monde, comment vieillir le mieux possible. Et on en parle avec vous, Farina Sfassa, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être à mes côtés dans ce studio à Lausanne. Vous êtes professeure honoraire en sociologie à l'Université de Lausanne et vous avez écrit avec Marion Repetti « Vieillir en Suisse, du privé au politique ». C'est paru ce printemps au Savoir Suisse. Vous êtes à la retraite depuis un an et demi. Avant d'y être, est-ce qu'elle vous faisait peur, cette retraite ?
J'y réfléchis. Pas vraiment, parce que j'avais pas eu le temps d'y penser. Donc c'était un stress permanent, elle ne faisait pas peur. Je sais qu'elle faisait très peur aux gens qui m'environnaient et qui se disaient « mais il va y avoir un grand vide ». Eh bien, pas du tout. J'ai juste l'impression d'avoir le temps de faire les choses bien, comme une bonne partie des retraités qu'on avait rencontrés, Marion Repetti et moi, lors de la recherche qui a suscité en partie le livre « Vieillir en Suisse ».
Donc, vous faites beaucoup de choses pendant ce nouveau temps libre.
Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Je refais du sport, ce que je n'avais plus le temps de faire, par exemple. Je reprends le temps d'aller aux champignons, ce que je n'avais plus le temps de faire non plus. Et je continue à lire, écrire, enfin à faire beaucoup de choses que je faisais par le passé.
La récolte de champignons est bonne ?
Excellente cette année.
Alors avant de poursuivre la discussion, je vous propose d'écouter ce reportage de Camille Bess pour Ici la Suisse. Elle a tourné ce reportage à Échallens dans le canton de Vaud. Elle a rencontré les participantes de l'association Challensemble qui existe depuis cet été grâce au soutien de Procénectute avec des activités pour les seniors par les seniors. On écoute ce reportage.
Allez, les 10 dernières secondes. On regarde devant soi. Excellent.
Allez quand même boire une petite goutte hein, après le cardio.
Bonjour, c'est assez intense hein, ce matin.
Mais c'est magnifique. On s'amuse bien, c'est super.
Vous venez ici à quelle fréquence ?
Tous les vendredis. Tous les vendredis matin, de 8h45 à 9h45. C'est génial.
Et juste vous demander, vous avez quel âge ?
79 ans.
La salle de sport d'Échallens n'a rien à envier aux fitness les plus modernes. Tapis de course, barre de traction, slackline, trampoline. La différence est bien dans l'âge des participantes, que des femmes toutes âgées de plus de 55 ans et membres de l'association Échallens Ensemble.
Je stabilise.
C'est structuré. Moitié pour l'équilibre et puis ensuite moitié pour travailler le cardio également et un tout petit peu de renforcement musculaire du haut du corps.
Patrick Olivier, lui-même à la retraite, propose plusieurs entraînements par semaine, spécialement pensés pour les aînés. Ici, pas de jugement, mais de la bonne humeur. Il s'occupe aussi avec Christine Casucci de la coordination des activités de l'association. Car en plus du sport, Échallens Ensemble, c'est aussi un café contact, des sorties et plein d'autres activités. Objectif, tisser du lien.
Le premier mot qui m'est venu, c'est l'amitié. C'est ces contacts qu'on a entre nous. On fait un peu plus connaissance, on va boire un petit jus ensemble quand on se rencontre. On discute 5 minutes et puis ça fait aussi pour nous-mêmes des contacts appréciables au sein de la commune.
Est-ce que c'est important de garder comme ça une activité quand on est à la retraite ?
C'est même indispensable. Souvent, on vit pour notre travail, enfin, ça occupe nos journées. Et puis tout d'un coup, il ne faut pas qu'il n'y ait plus rien non plus.
1, 2, 3... 4 et on repart cette fois-ci.
À l'origine de l'association, une démarche de Procénectute qui accompagne le développement des projets pour les seniors, par les seniors. Car pour cette nouvelle génération, retraite ne rime pas avec repos. Pas question donc de rester seul à la maison, mais pas facile de trouver sa place dans des offres souvent pensées pour les personnes actives ou trop éloignées de son domicile.
1, 2.
C'est important si on veut bien vieillir et rester en santé, de rester actif.
Marie-Claude Nusselet, responsable du café rencontre La Bateuille.
Souvent, les activités pour les non-seniors, ils ont lieu le soir parce que tout le monde travaille la journée. L'association permet de rassembler toutes les informations destinées aux seniors qui étaient un peu éparpillées à gauche, à droite, et que les gens ne connaissaient pas forcément alors que ça existait déjà.
Un modèle qui séduit les aînés, une trentaine d'associations existent dans le canton de Vaud. D'après Procénectute, plus de 5000 seniors en bénéficient et désormais une centaine de plus à Échallens.
C'était le reportage de Camille Bess. Farinas Fassa, professeure honoraire en sociologie à l'Université de Lausanne, vous êtes toujours avec nous. Alors, je vous ai vu prendre pas mal de notes pendant la diffusion de ce reportage. Une réaction peut-être ?
Ah oui, une réaction, c'est toujours très bien quand les gens font des choses ensemble. C'est toujours très bien quand les choses s'organisent avec les personnes qui vont bénéficier. Ça évite d'avoir des images qui sont fausses. Mais je pense qu'aussi, il est important d'imaginer que bien vieillir, c'est vieillir comme on a envie de le faire et que le sport peut être un plaisir mais pas une obligation et bien vieillir ne devrait pas être associé systématiquement avec des programmes de santé mais aussi avec une forme de loisir. Alors je trouve l'association enfin Échallens Ensemble et votre reportage tout à fait intéressant parce que il me fait penser à tout le travail de Procène sur les quartiers solidaires ou maintenant sur les régions solidaires. avec quelque chose de remarquable, hein, c'est de permettre à des habitants ou à des personnes qui voisinent de se retrouver pour créer du lien, donc de s'entraider potentiellement. Mais il y a aussi un petit bémol de mon point de vue, c'est qu'en fait, on fait porter aux personnes qui bénéficiaient d'un certain nombre d'aides sociales ou de travail social, le poids du travail social. Donc c'est bien, mais ça veut dire que les seniors vont continuer à bosser et gratuitement après la retraite. Alors, vieillir ensemble, c'est nécessaire, hein, et Échal Ensemble le dit bien, mais c'est aussi nécessaire de vieillir avec des plus jeunes, de rencontrer d'autres gens, et pour autant qu'on soit reconnu par ces autres personnes au titre d'un ou d'une citoyenne pleine et entière. Donc c'est un peu ces deux aspects qui sont en tension que je trouve intéressants.
Vous le dites, c'est important aussi de se retrouver entre générations, pas seulement entre gens du même âge, entre seniors. Mais comment on fait alors pour que les générations se rencontrent ?
Ça, c'est probablement plus compliqué, mais je pense que si on a une vision un peu plus ouverte de ce que peut être la vieillesse et un peu moins agiste, hein, où on n'est pas marqué par la décrépitude, enfin, oui, certes, c'est moins bien qu'avant, on est d'accord, mais les personnes qui ont plus de 60 ans, plus de 65, plus de 70 ans, ont encore des choses à amener, ne serait-ce qu'une expérience ou du temps. Pas automatiquement du temps pour les autres, mais le temps de faire les choses autrement, bien, avec un certain plaisir et non pas dans le stress.
Et Farina Sfassa, on entend une des participantes qui parlait d'amitié. Alors, pour bien vieillir, on imagine que les finances et la santé, c'est très très important. L'amitié, la vie sociale aussi ?
Alors, toutes les études montrent que la sociabilité font partie d'un des éléments qui permet de bien vivre. On constate aussi que ce qui permet ce qui empêche de bien vieillir, ce qui crée un vieillissement pénible, c'est des difficultés sociales et des difficultés financières. Et là, les femmes qui vieillissent plus tard que les hommes sont particulièrement soumises à cette situation-là, puisque souvent leurs rentes sont assez faibles. Donc on a, toute une série de programmes qui visent à bien vieillir, à s'épanouir au temps de la vieillesse. C'est assez paradoxal, on pourrait s'épanouir avant, ceci étant dit, mais on met trop peu l'accent sur les conditions de base qui font que toutes les personnes âgées ne sont pas égales devant le processus de vieillissement. On vieillit différemment selon son origine sociale et selon sa formation.
Et justement, est-ce qu'on a tendance, selon vous, à voir les personnes de 65 ans et plus comme un tout homogène, sans tenir compte des parcours de vie et du genre, par exemple ?
Ben, on a tendance à le faire parce qu'on a tendance à créer des catégories. Alors, les catégories de l'action publique, hein, par exemple, l'AVS font qu'il y a les 65 plus, et on imagine ça comme une catégorie unique. Ça a été très flagrant pendant le Covid, hein, où tout à coup, à partir de 65 ans, vous étiez susceptible d'attraper le Covid plus que les autres, alors qu'on constatait qu'il y avait des différences beaucoup plus variables en termes d'âge.
On sait qu'il y a des délégués vieillesse dans plusieurs communes, dans plusieurs cantons. Est-ce que la politique se préoccupe de plus en plus des seniors et assez ?
Alors, la politique s'en préoccupe de plus en plus, c'est certain, ne serait-ce que parce qu'une série de voix s'inquiète du nouvel équilibre démographique. Mais en même temps, est-ce qu'elles s'en préoccupent bien ? Peut-être pas toujours, parce que, et là l'exemple de Échal Ensemble est excellent, c'est avec les seniors qu'il faut faire les choses et non pas pour les seniors et sans eux.
Merci beaucoup Farina Sfassa, professeure honoraire en sociologie à l'Université de Lausanne. Merci d'avoir été quelques minutes avec nous et puis belle fin de semaine à vous.
Merci.
Et on passe Bonne à journée. La météo. Après dissipation des grisailles matinales, le temps devrait être en général ensoleillé avec tout de même quelques voiles d'altitude. Ça va rester très nuageux le long de la crête sud des Alpes valaisannes, sur la région du Simplon et dans la vallée de Conches. Il fait jusqu'à 16 degrés en plaine, 20 en vallée avec un peu de feu. Demain samedi, temps contrasté sur l'ouest lémanique et le Jura vaudois. Du gris, un risque d'averse isolée et parfois un peu de soleil. Ailleurs, plus de soleil. Des nuages toujours en revanche sur la région du Simplon et dans la vallée de Conches. Pas plus de 15 degrés en plaine, 19 en vallée.
RTS Espace 2.
La vie à peu près, Anya Léveillé.
Rassembler des objets, collecter des bribes d'histoire pour tisser ses propres récits. Cette semaine, l'artiste et cinéaste Emmanuel Anti nous emmène dans son atelier de création. Soyez les bienvenus. Où se situe la frontière entre la vie et l'art? Cette question, Emmanuel Anti se la pose quand elle découvre une artiste aussi singulière que mystérieuse, la chanteuse, autrice et compositrice Karen Dalton, qui a bouleversé les grands noms de la folk américaine dans les années 60, avant de partir à la dérive, dans les paradis artificiels qui la mèneront à la mort en 1993, à l'âge de 55 ans. Frappée par cette étoile filante méconnue du grand public, Emmanuel Anti parcourt 8000 km à travers les États-Unis pour reconstruire l'univers de cet artiste dont le travail créatif et la vie étaient intimement liés. Sortie dans les salles de cinéma en 2019, A Bright Light, Karen and the Process est à la fois un documentaire musical qu'un essai cinématographique dans lequel Emmanuel Anti s'interroge aussi sur sa propre pratique artistique. S'inventer des territoires par le geste, voici le cinquième volet de La vie à peu près d'Emmanuel Anti, une série de Florence Crivel, réalisée par Gilles Ozaman.
Bonjour Emmanuel Anti.
Bonjour.
Vous vivez donc près de ce château de Chillon, qui est peut-être un château hanté par quelques fantômes. Est-ce que vous êtes hanté par des fantômes ?
Bon, il y a des personnages de femmes ou d'hommes extraordinaires, oui, qui me poursuivent, disons, qui m'obsèdent, si on peut dire obsédé, mais qui me fascinent en tout cas.
Parce que je pensais à votre grand-mère, Émilie, décédée, je crois, il y a un peu plus de 10 ans.
Oui.
Ouais, qui était donc toujours très présente dans vos films, vidéo en tout cas, qui a été quelqu'un d'extraordinairement inspirateur pour vous. Et vous découvrez, je crois, à sa mort, un univers autour d'elle, de ce qu'elle faisait. C'est-à-dire que plus son territoire en physique s'amenuisait, plus finalement elle enrichissait son territoire intérieur en consignant tous les films qu'elle voyait, en faisant des herbiers, ou je ne sais plus, elle s'intéressait beaucoup, elle faisait des dessins de fleurs. Vous pourriez nous raconter ça, parce que ça va ensuite ouvrir sur des productions plus récentes.
Oui, alors... Bah, ça lie un petit peu à l'épisode précédent. Quand on a tourné le film Avanti, moi j'ai tenu à le tourner dans la Broye et dans sa maison.
La maison de votre grand-mère. Ouais.
Tout à fait. On a tourné en 2011, elle est décédée en 2010. Et puis en vidant sa maison, en fait, on a découvert des trésors incroyables. On a découvert en fait plus de 1000 dessins de fleurs. Moi, je sais que quand j'étais à Amsterdam, je lui achetais du papier, des crayons, des pastels, parce que c'est un moment, c'est quelqu'un qui a été toujours très actif, qui avait deux passions, son jardin et le cinéma. Et à un moment donné, à cause de son genou, elle a plus pu aller dans son jardin. Donc elle s'ennuyait ferme. Donc moi, je lui ai dit, ben voilà, tu veux pas dessiner peut-être ou... Donc je lui ai amené tous ces crayons, ces papiers que j'achetais au marché aux puces. Et puis, bah, en vidant sa maison, on a découvert qu'elle avait fait plus de 1000 dessins de fleurs. Je savais qu'elle en avait fait quelques-uns, mais pas à ce point-là. Et puis, elle notait tout. Il y avait ses carnets où elle notait toutes ses journées, l'état de son jardin, de la météo, ses rencontres. Elle collectionnait aussi les pierres. Moi, je lui ramenais des pierres de mes road trips. Sous chaque pierre, elle avait mis une étiquette d'où venait la pierre. Donc, c'est comme si elle se reconstituait une sorte de territoire. C'est quelqu'un qui a assez peu voyagé, vraiment. Qui venait d'Italie, du nord de l'Italie, et voilà. Et elle adorait les films aussi, donc je lui amenais aussi des cassettes VHS.
Ouais, mais qu'est-ce qu'elle aimait regarder ?
Bah, les westerns. Elle aimait aussi, enfin, je sais pas, les Fernandel, des films de son époque. Mais on a retrouvé en fait, au moment où on tournait Avanti, on a retrouvé un petit carnet. Ma tante me tend un petit carnet où elle avait noté tous les films qu'elle avait vus au cinéma. Et sur la page 2 de ce petit carnet, je vois écrit, je ne sais plus le titre du film, mais avec Monique Mélinan. Et j'étais hyper touchée parce que Monique Mélinan, c'est l'actrice que j'avais choisie pour jouer son rôle dans un film.
Ouais.
Donc c'était fou.
Non mais c'est fou ça.
Ouais, c'est complètement fou. Et donc en fait, il y a toute cette collection et je me dis il faut que je fasse quelque chose avec cette collection. Et je viens de terminer mon film Avanti, je viens de le sortir et je décide de faire une grosse installation vidéo autour de toutes ces collections qui s'appelle l'urgence des fleurs, ouais. Et que je vais montrer à la ferme Asile à Sion en 2013 peut-être, je sais plus. Et voilà.
Non, mais c'est une immense installation. On peut quand même juste en toucher un mot. Parce
oui,
qu'il y a
beaucoup. Il y a une trentaine de projections, de gestes. Elle collectionnait les nappes, je les réactive. Et puis, c'est des images, en fait, dont on parlera après, mais que je vais réactiver dans mon dernier film aussi.
Justement, c'est ça, c'est qu'il y a un grand lien avec The Wonder Way, le dernier documentaire-film que vous avez réalisé, qui poursuit sa carrière. Parce que, justement, vous êtes très intéressé par ces personnages qui créent des mondes, qui sont dedans et qui les activent. Et c'est l'occasion du merveilleux, du mystère. Et toutes ces choses-là, c'est vraiment les épiphanies, c'est quelque chose qui vous intéresse énormément. Moi, ce que j'avais envie, juste avant de faire le lien direct avec ce dernier film documentaire, c'est tout à coup la présence de cette chanteuse folk, Karen Dalton, dont on n'a pas beaucoup de mémoire visuelle, hein, il n'y a pas beaucoup de films sur elle. On sait que c'est un personnage important qui a évidemment été aux côtés d'hommes qui avaient beaucoup de succès. Cette histoire-là, elle vous arrive, alors cette fois-ci pas au volant d'une voiture, je crois que c'est dans un bus que ça se passe, hein, cette espèce d'inspiration, en tout cas c'est ce que vous racontez.
Non, alors ce qui se passe, c'est que je termine le tournage d'Avanti, je fais cette installation L'urgence des fleurs, et en parallèle je me dis, ok, j'ai envie de me relancer dans un nouveau long-métrage. Cette fois, j'ai envie d'aller à la rencontre du processus créatif, à la rencontre d'un ou une artiste, et discuter avec. C'est ma première envie. Souvent, il y a une sorte d'impulsion de départ, c'est ça. C'est, je veux faire un film et rencontrer un ou une artiste, discuter de qu'est-ce que c'est le processus. J'ai besoin de ça à ce moment-là, après avoir fait ma grosse fiction. Et du coup, bon, voilà, je me dis qui, quoi, j'en parle à des amis, je réfléchis. Ça met un petit moment quand même. Et puis, un de mes amis me parle d'artiste et me parle aussi. Il me dit, bon, mais il y a une artiste que tu devrais adorer, c'est Karen Dalton. Bon, elle est décédée, mais voilà, écoute, je pense que c'est quelqu'un qui va te toucher. Et j'oublie son conseil. Et puis, un jour, je suis dans le bus, quelques temps après, et dans mon téléphone, mes écouteurs, et j'entends ce truc, et je suis bouleversée, et je regarde le nom, et c'est Karen Dalton. Et je fonce chez moi, et je regarde sur Internet, et il y a quasiment rien sur elle, parce qu'on est en 2014, je crois. Il y a presque rien. Je vois qu'elle a vécu dans des mines d'or abandonnées dans le Colorado, que c'était l'amie de Bob Dylan. Voilà, c'était trois trucs, et que Nick Cave en parle, voilà. Mais c'est tout, il y a que dalle. Donc, ça me rend dingue, je me dis, c'est
la perle, quoi.
Ouais, mais c'est aussi une aventure que j'ai envie de vivre. J'ai envie d'aller voir ces mines d'or. J'ai envie de voilà. Et je commence pendant 3 ans. Je vais écrire toute son histoire. Je vais essayer de choper tout ce que je trouve sur elle, faire la liste de tous ses amis, parce qu'elle est décédée à Woodstock des années avant. Donc je vais retracer toute sa vie. Il y a presque rien, et je me dis, ce que j'arriverai pas à retracer, faudra qu'on l'invente, faudra créer ce personnage, faudra lui rendre justice, faudra la rendre vivante, quoi. Et voilà. Et ça. Et pendant un long moment, je me dis, est-ce que je vais faire une fiction de ça, trouver des acteurs. Je me dis, je sais pas. Après, je me dis, est-ce que je prends une autre musicienne avec moi dans la voiture, et puis on va filmer, puis elle va rentrer en discussion. Parce que j'étais trop peut-être stressée de... Voilà, je me suis souvent mis en scène pour mes vidéos, mais jamais avec la parole. Mmh. Enfin, j'estime que je ne sais pas assez bien parler, que... Voilà, enfin, je suis... Voilà, c'est compliqué. Puis c'est compliqué d'être des deux côtés. Je me décide et je me dis, ok, je connais tellement bien mon sujet. C'est grâce à Carmen Jacquet qui va faire la caméra du film. On a beaucoup de discussions. Elle me dit, mais pourquoi tu ne le fais pas toi? Et j'étais, moi, j'y avais à la base pas pensé. Et puis j'évalue cette idée et je commence à m'entraîner. Donc je connais mon sujet sur le bout des doigts, je prépare mes questions vraiment comme un reporter, mais je sais tout. Je me dois d'être à 100% légitime. Et puis on prépare ce voyage, on le prépare. Moi je le prépare pendant des mois parce qu'on va faire plus de 12 000 km en voiture. On va être trois femmes, on va sillonner les États-Unis, on va filmer notre expérience, on va rencontrer tous ces gens et on va essayer de rendre justement cette voix.
Une figure en creux, quoi, ouais.
Ouais, une figure en creux. Comment, et c'est vrai que, bon, là j'ai vieilli depuis, mais de dos comme ça, de loin. Non mais il y a une forme de ressemblance, donc je joue un peu aussi, je deviens une sorte de personnage. Enfin, comment on met en scène une disparition? Une figure comme ça évanescente, ça c'est une vraie super question de film. Et puis et comment aussi on rend le son palpable à travers les émotions, le son à travers des images, à travers des paysages. Donc ça c'est deux questions qui me passionnent. Et comment on crée un morceau, une émotion. Donc je pars avec ces questions-là sur la création. Donc l'idée c'est de rentrer en dialogue avec cette voix, avec ce personnage et avec tous les musiciens, parce qu'évidemment elle était amie avec plein de musiciens, tous ses amis musiciens qui vont me parler du processus créatif musical. Et voilà, et je fais cette aventure sur, on va tourner pendant plus de deux mois, et je reviens là, on est donc j'ai l'idée en 12-13, je pars en tournage en 2016, donc la gestation et le travail de préparation, il est énorme. Et voilà, et je termine le film, on le montre à Vision du Réel en 2018. Donc voilà, c'est chaque fois des gros trucs, il faut être vraiment bien, comme je le disais l'autre jour, convaincu du truc dans ses tripes, sinon c'est long. Hein.
C'est long.
On a le temps de s'ennuyer. Ouais. Et donc voilà, et après on fait une tournée dans toute la Suisse, parce que je convie des jeunes femmes musiciennes, Laure Bettrice, Mélissa Kassab et Della Michler, à venir jouer, reprendre des morceaux à leur sauce.
De Karen Dalton.
De Karen, ouais. Dalton.
Et cette démarche-là, qu'est-ce qu'elle a peut-être apaisé ou au contraire ouvert en vous? Parce que c'est une sorte de réhabilitation d'une figure. Est-ce que vous l'avez réhabilitée? Quel est votre regard maintenant, qui s'est passé quelques années, sur le geste que vous avez fait en faveur de Karen Dalton,
alors,
cette figure?
Moi, je pense que... En fait, c'est pour moi c'est une étape clé, ce projet, par rapport à qui je suis maintenant aussi, parce que ça m'a permis toutes les libertés entre l'art et le cinéma, ma façon de travailler les images, de monter, de créer. Vraiment, c'était une liberté, une ouverture extraordinaire. Et effectivement, je pense que d'une certaine façon, je suis pas la seule, mais quand je l'ai sorti, c'était le seul film qui existait sur sa vie. Après, il y en a eu un autre documentaire, mais c'est tout. Enfin, il y a pas, donc ça a contribué aussi. En tout cas, je pense ici, c'est un documentaire qui a tourné énormément dans énormément de festivals. Donc moi ma question c'était, Joan Baez est connue, Bob Dylan est connu, pourquoi elle a, ça n'a pas été une figure, parce que elle incarnait quand même vraiment son époque, et puis c'était quelqu'un d'hyper rebelle qui a fait aucune concession, donc voilà,
et qui est une voix extraordinaire,
qui a une voix extraordinaire,
donc comme ça,
donc c'est pour ça aussi que il y a eu des starlettes à son époque, mais elle a sa voix, elle traverse le temps, donc c'était aussi assez intéressant. Non, pour moi ça a vraiment révolutionné ma façon de travailler, et puis j'ai vraiment mis en place une sorte de méthode maison. C'est un film que j'ai décidé de produire au départ toute seule, donc je suis partie toute seule avec le succès cinéma du précédent, enfin, espèce de cagnotte que j'avais eue avec le précédent, qui a permis de financer un tout petit bout de cette aventure, parce que de nouveau je voulais vraiment me réinventer, et sans que quelqu'un me dise comment on fait un film, sans que quelqu'un me dise qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, je m'en fous. En fait, j'ai d'abord besoin d'essayer de me tromper, de faire plein d'essais, de faire des choses peut-être dans l'économie du cinéma qui seraient pas possibles, permises, auxquelles il y aurait trop de luttes pour à obtenir. Voilà, je suis partie vraiment freestyle, je suis rentrée, et là, en fait, j'ai contacté Intermezzo Film, qui est basé à Genève et qui travaille beaucoup le documentaire, et qui est aussi Luc Peter, très sensible, qui connaissait mon travail d'artiste, donc qui se situait au bon endroit aussi par rapport au projet. Et puis on le sort, et puis c'est un très joli succès, ce film. Et je suis ravie, parce que c'est aussi, au niveau des publics, ça rassemble tous les publics. Jusqu'à maintenant, qui me sont chers, qui est le public de l'art, mais le public de la musique, parce que jusque-là, j'ai toujours inclus des musiciens. Il y a toujours eu la musique, en fait. Et c'est chou, parce que récemment, j'ai croisé quelqu'un à vernissage qui me disait, mais c'est dingue, moi, j'étais étudiant Beaux-Arts à l'époque où tu sortais tes projets, et t'es la première qui amenait du rock, en fait, dans l'art contemporain, et personne, et j'avais oublié ce truc-là, mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose de libre, et que tout d'un coup, j'ai pu rassembler, en fait, toutes ces choses qui me passionnent, l'écriture. C'est compliqué d'écrire une voix off, par exemple, là, le film, il y a cette voix off, comment se substituer à la voix de quelqu'un d'autre, enfin, voilà. Et du coup, en fait, ça réunissait un peu tout ça. Et puis, donc, j'ai vécu cette aventure géniale qui est aussi une aventure de femme. C'était ma fierté. Ça lie plein de choses que j'ai dit avant, en fait. Tout d'un coup, c'est aussi dans la pratique. C'est, on parle des rituels de femmes, on les filme. Par exemple, dans Carol Dalton, on parle pas. Mais aussi, je travaillais, engageais des femmes, etc. Et puis, après, il y a eu le Covid. Et moi, j'étais prête à me lancer dans un nouveau film.
Pleine d'élan,
j'étais en plein repérage aux États-Unis. J'ai dû rentrer d'urgence avec le dernier vol. Et puis, je me suis retrouvée chez moi et je me suis dit, l'idée, c'était de continuer cette histoire. Parce que, en fait, ce que je dis pas, c'est que quand on finit un film, un projet, une œuvre, il y a toujours une chose qui est pas résolu. Il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas pu dire, qu'on a envie encore de rajouter, mais qui ferait trop.
Le post-scriptum.
Voilà. Donc en fait, moi j'ai toujours considéré les œuvres, tous mes travaux, comme une suite de respiration, comme une sorte de rivière qui coule, et on passe, et une chose amène à une autre.
Le fameux flux d'Emmanuel Anti.
Mais je sais
c'est
pas.
Vrai, c'est un mot que vous utilisez, oui.
C'est possible, mais je pense qu'il y a toujours une insatisfaction, quelque chose qu'on n'a pas réussi, ou voilà, bah, sinon on arrêterait. Mais donc. Voilà, l'exploration, elle continue. Et je me suis dit, voilà, j'ai parlé avec... c'était l'idée de parler du geste créatif, musical. Mais je ne suis pas forcément allée jusqu'au bout de cette idée-là parce que le personnage de Karen Dalton était tellement incroyable que ça prenait même le dessus sur le fond même du film. Donc je me suis dit, voilà, je vais faire un deuxième volet, un deuxième film qui va vraiment traiter de cette question du geste créatif et de comment on arrive, comment un geste créatif permet de créer un univers, comment on se crée un univers à soi, comment on développe son propre monde, comment on se fait un monde dans un monde. Et du coup, voilà.
Mais attends, et ça va donner, là, c'est le sujet de ce film documentaire The Wonder Way. Vous commencez par quel portrait ? Commencer par qui ?
Non, alors au départ, c'est toujours la même chose. Je voulais, un peu comme pour Karen Dalton, trouver un interlocuteur ou un territoire ou une œuvre qui puisse assouvir toutes mes questions, rassembler. Voilà. Donc je suis partie en repérage, en Belgique, en France, aux États-Unis. Et puis, c'était un peu déceptif parce qu'il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient, mais c'était jamais complet. Et puis il y a eu le Covid, donc je me suis retrouvée chez moi et je me suis dit voilà.
Avec des heures de rush ?
Non, pas encore. Des tonnes de photos, des petits bouts de trucs. Et puis, je me suis dit, mais vraiment, en fait, on est con. On a tellement des trésors dans nos téléphones portables, dans toutes les images qu'on prend. On est coincé là, on ne peut plus bouger. Mais en fait, on a tous ces trésors qui sont là. Voilà. Et finalement, ce n'est pas un seul univers, c'est un geste, mais un geste à travers plusieurs démarches qui m'intéressent. Parce que, voilà. Et donc, du coup, cette urgence-là de casser les impossibles. Enfin,
c'est ça.
Je l'ai dit avant. Enfin, on me donne une contrainte, ça, voilà. C'est pas possible. Donc, je me suis dit, OK, mon film, je m'en fous, je le fais, je vais le faire depuis ma chambre. Et puis, j'ai commencé à bricoler, à faire des rayons verts dans mon bureau, à commencer à monter à partir des archives, à partir de ce que j'avais, à animer mes images parce que elles étaient, j'allais pas faire un diaporama. Donc, j'ai commencé à les animer pour faire des bouts de films. Donc, j'ai commencé à faire tous ces petits gestes-là, qui sont mes gestes à moi d'artiste, qui sont mon monde aussi. Et puis, puis après, ça s'est assoupli. J'ai pu reprendre l'avion parce qu'on a demandé des dérogations de travail, en fait. Donc, on a pu aller tourner aux États-Unis, même si c'était fermé. On a dû faire des papiers pour prouver que c'était un film d'importance nationale. Enfin, voilà, on a dû faire un certain nombre de choses. Un peu longue et compliquée, mais du coup, on a pu quand même tourner, et je suis allée au Nouveau-Mexique, et en fait, ce film est constitué de plein de gestes et de territoires de gens exceptionnels, hommes et femmes, et qui ont consacré leur vie à la création et à la création d'univers.
Je me demandais, Emmanuel Anti, en vous écoutant, en regardant votre regard aller dans des ailleurs où je ne suis pas, je voulais savoir à qui vous pensiez en premier lorsque vous réfléchissez à ce documentaire. Par quel personnage ou plusieurs personnages on pourrait faire connaissance en fait avec ces personnes qui sont créatrices d'univers.
Et puis bon, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'ils viennent pas tous du monde de l'art.
C'est ça.
Alors, ça c'est très important. Ça, oui. Mais le premier auquel je pense que j'adore, c'est Jean Wisniewski, en fait, qui est malheureusement décédé quand j'étais en train de terminer le film. Mais lui, je l'ai vu deux fois. Alors lui, en fait, c'est un ancien mineur. Il a passé toute sa vie sous la terre. Et puis, dès l'adolescence, il raconte qu'il a eu la passion des pommes. Parce que c'est dans le nord de la France, il y a ces terrils, on dirait les pyramides, voilà, que les mineurs gravissent. Et puis, en allant à la mine, ils bouffent des pommes et ils jettent le trognon et ils descendent dans la mine. Ça fait que, en fait, sur ces terrils, il y a des tas de sortes de pommes qui poussent et qui s'hybrident et avec la, je sais pas, le climat, la pollinisation, etc. Donc lui, il est fasciné par ces biotopes. Et il commence à, tout en étant mineur, à se spécialiser dans la greffe de pommes. Et puis, il se dit, bah, une fois à la retraite, je vais faire mon jardin. Et je trouvais tellement beau d'avoir passé sa vie sous la terre et de, au bout de 50, 60 ans, se dire, bah, on en fait une, de cette expérience-là qui est très pénible quand on, quand il l'évoque et mortelle pour énormément de gens. Bah, lui, il en a fait une sorte de jardin de lumière. Il est devenu vraiment un expert. Il a été aussi décoré pour son travail de greffe. Il en est très fier. C'est quelqu'un qui cite Kant. Il va photographier ses pommes. Il va leur donner des noms. Il va recréer des sortes de pommes un peu disparues. Donc, c'était génial. Dans son jardin qui est assez petit, où il y a une cinquantaine de troncs, il y avait 200 sortes de pommes. Donc, moi, ça m'a passionné de le rencontrer. C'est ce que j'ai découvert avec le film précédent sur Karen Dalton. C'est cette espèce de joie, de passion, d'avoir la chance. Je me dis, qui j'ai envie de rencontrer? Et puis, par le biais de mon travail, j'y ai accès, en fait. Je me sens légitime d'aller vers cette personne. Et évidemment, je me prépare, mais de pouvoir rentrer dans cet univers et comprendre sa démarche.
Et juste par curiosité, cette espèce de verger incroyable qui aujourd'hui est endeuillé puisque Jean n'est plus là, est-ce que ça devient un conservatoire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reprend la main?
Pour l'instant, j'ai parlé à sa fille, elle ne sait pas, mais pour l'instant, il est à l'abandon. Donc, c'était aussi vraiment pour moi le but de ce film, c'est de montrer des mondes dans ce monde qui ne sont pas accessibles aux autres, de pouvoir les partager, parce que c'est des vraies enquêtes. Pour tomber sur Jean, c'est une grosse enquête de trouver son adresse et déjà même son travail, quoi. Et donc, c'est des mondes qui sont peu accessibles. Le film est composé de tous ces gens, et de tous leurs gestes, et de toutes leurs pensées créatives, et comment la pensée créative, la question, c'est comment elle se déploie et qu'est-ce qu'elle permet de créer. J'ai vraiment monté pendant 2 ans ce film. Et voilà, c'est 2 ans derrière la machine pour arriver à ce résultat-là. Pour moi, ça valait la peine. Mais...
Et à nouveau, justement, vous profitez de la sortie du film pour organiser des concerts, activer le film dans la vie réelle aussi, avec une pléthore d'autres artistes. Et d'ailleurs, vous allez continuer sur ce chemin. C'est un petit peu la suite des opérations, Emmanuel Antille.
Oui, alors ce film, on l'a sorti en salle. Déjà, il a reçu le prix spécial du jury au Festival Vision du Réel. Après, on l'a sorti en salle en début de cette année. Après, on l'a sorti dans des centres d'art, Ferme des Tilleuls, Musée Yéniche, avec aussi des discussions au Rolex Center, avec une rencontre avec Didier Queloz. Voilà. Et puis, là, c'est comme une fusée à plusieurs étages. Alors là, le dernier étage, ça va être une série d'expositions que je suis en train de préparer, dont la première aura lieu au manoir de la ville de Martigny, dans tout le manoir, avec des artistes du film et d'autres artistes que j'aurais aimé mettre dans le film, enfin, qui font sens. Et ça va être sous le titre de Wonderway Project. Donc, je vais être à la fois artiste dans l'exposition, mais aussi commissaire de l'exposition. Et pour présenter tous ces univers, et la thématique, ça sera le geste et le territoire. Et suivront 2 autres volets en 2026, dont je parlerai certainement une autre fois. Mais voilà, disons que il y a une série d'expositions.
À partir de 2025.
À partir de 2025, et puis après en 2026, chaque fois avec une thématique différente, chaque fois avec des artistes différents, et toujours autour de cette question des mondes extraordinaires.
Et qu'est-ce que, au fil des années, vous avez découvert sur vous, Emmanuel Antille, dans cette manière justement d'aimer découvrir, apprendre en faisant, en se disant tiens, mais je vais faire un truc tout autre. Quel regard vous avez sur vous de votre petite cinquantaine?
Je sais pas. Moi, j'aime bien me dire pour moi, c'est pour moi, mais que je suis un peu une aventurière. Voilà. Et du coup. Ça semble un peu naïf, mais ça me plaît, ça, de me dire ça, que ouais, ma curiosité, elle a vraiment pas beaucoup de limites, et c'est génial, en fait. Ouais, je pense que quand j'étais plus jeune artiste, j'étais très intéressée par ma propre pratique. J'étais intéressée de découvrir celle des autres, mais pas autant que maintenant. Et je regrette pas, hein, parce que de toute façon, il faut se
connaître.
Plutôt,
ouais,
une forme d'arrogance aussi, se connaître, avoir la niaque, enfin, vraiment être.
Un jeu très fort.
Ouais, un jeu très fort. Et puis là, c'est vachement différent. Là, vraiment, ça me passionne de pouvoir collaborer, aller avec les autres, discuter, découvrir qui ils sont, comprendre leurs gestes, je sais pas, y répondre, moi-même, voilà, être dans cette curiosité-là et dans ces aventures-là et avec justement cette façon de faire des films. Et là, il y aura plusieurs nouvelles installations vidéo que je vais faire pour les expos. Voilà, j'ai gagné beaucoup plus de liberté, en fait, je pense. Enfin, en tout cas, je m'amuse à fond. Mais c'est du boulot, hein. Après, j'ai plein de cheveux blancs, tout ça. Il y a plein de moments de doute où je me dis, je vais pas y arriver. Mais je sais pas, il y a un truc assez jouissif, quoi.
Eh bien, c'est ce que je vous souhaite de continuer sur cette lancée Emmanuel Anti. Avant de nous quitter, nous dire au revoir, puisque c'est terminé cette semaine en votre compagnie. On va conclure avec une musique. Karine Dalton ou pas?
Je vais choisir quelque chose qui résonne plus avec ce que je suis en train de faire maintenant. C'est une chanson qui s'appelle Territories.
Bah tiens, ça tombe bien.
Voilà, de The Blaze. Et puis c'est des Français, mais le clip il est génial. Il a été tourné à Alger et c'est dans cette ville où il y a des gens qui font du parcours dans cette ville. Ça veut dire le parcours, on sait ce que c'est, de sauter d'un toit à l'autre. Voilà, et le clip est très très émouvant, magnifique. Voilà, Territories.
Merci beaucoup, Emmanuel Anti.
Merci.
À bientôt.
Merci à vous.
Territories par The Blaze. C'est sur ce titre que la vidéaste et cinéaste Emmanuel Anti a choisi de refermer le 5e épisode de Sa vie à peu près, une série de Florence Grivel que vous pouvez bien sûr retrouver dans son intégralité sur Play RTS. La vie à peu près, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve lundi. Merci à Gilles Ozaman qui a réalisé l'émission et merci aussi à Audrey Zanou, notre attachée de production. La vie à peu près, c'est une proposition de Florence Grivel et Agnès Léveillé. Nous vous retrouvons du lundi au vendredi dès 13h30 sur Espace 2 et en tout temps sur Play RTS. Passez une très bonne après-midi à l'écoute d'Espace 2. Tendez l'oreille.